Il est 16h à Paris, 15h en temps universel, vous écoutez bien RFI, 18h à Damas.
Diane Berger.
Le traumatisme et l'inquiétude de nombreuses familles alaouites. Deux semaines après des violences meurtrières contre cette minorité dans l'ouest de la Syrie, ils sont des milliers à avoir fui vers le Liban. Reportage à la frontière entre les deux pays dans un instant. Bataille judiciaire en Israël autour du limogeage du chef du Shin Bet. La Cour suprême gèle la procédure après plusieurs recours déposés ce vendredi. Le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou annonce l'ouverture d'une enquête après la diffusion d'appels au meurtre sur les réseaux sociaux contre la population Peul. Et puis nous reviendrons sur cette polémique en Espagne. Plus de 5000 migrants adolescents hébergés dans des structures d'accueil saturées sur les îles Canaries. Et la droite espagnole refuse que ces jeunes soient répartis dans plusieurs régions du pays pour atténuer l'effort. Une région toujours meurtrie. Deux semaines après les violences dans l'ouest de la Syrie, les exactions menées par les groupes armés autour de Tartous et Latakié ont fait près de 1500 morts début mars, selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les victimes, une majorité de civils issus de la minorité alaouite, celle à laquelle appartient le clan de Bachar al-Assad. Des centaines de familles ont pris la fuite direction la frontière libanaise, où des villages s'organisent pour accueillir cette nouvelle vague de réfugiés. Reportage à Talbiré de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
La mairie de Talbiré a été transformée en refuge. À terre, des dizaines de matelas empilés, des valises encore ouvertes, des réchauds et couvertures. C'est ici que dort depuis 3 jours Isra. Et s'il faut, dit-elle, j'y resterai encore plusieurs mois.
Ici, grâce à Dieu, nous n'avons plus peur. Ils nous nourrissent, nous donnent à boire et nous fournissent tout ce dont nous avons besoin.
Depuis une semaine en Syrie, son village, Al-Aïché, est le théâtre de violents combats. Des tirs du matin au soir venus d'hommes vêtus de noir. Un matin, 5 d'entre eux sont entrés chez elle par effraction, ont détruit sa porte, pillé sa maison. Ce qu'il voulait surtout, c'était son mari, un ancien soldat de l'armée de Bachar al-Assad. Par chance, ce jour-là, il n'était pas là.
Je ne comprenais pas ce qu'il disait, car il ne parlait même pas arabe. C'était des combattants étrangers. J'ai juste compris qu'il disait « Allahu Akbar » et « Alaouite ».
À Talbiré, une soixantaine de familles alaouites ont débarqué au lendemain de la chute du régime. Depuis le début des exactions sur la côte début mars, elles sont désormais 500. La mairie, la mosquée, mais aussi les maisons des habitants ont été ouvertes pour les accueillir. Abdelhamid Sakr, le maire de la ville.
Il y a de nouveaux réfugiés qui arrivent ici tous les jours. Ils arrivent dans notre ville et dans les villes alentours. À chaque fois, nous leur demandons « Retourneriez-vous en Syrie si le gouvernement vous disait que c'était à nouveau sûr ?» Ils nous répondent « Nous n'y retournerons pas tant qu'il n'y aura pas de protection internationale. »
À quelques kilomètres de la mairie, des tentes ont été montées pour accueillir les réfugiés syriens dès 2011. D'après le maire, un deuxième camp devrait prochainement être ouvert pour accueillir ces nouvelles familles débarquées de Syrie. Manon Chaplin à la frontière libano-syrienne, RFI.
Plus au sud dans la région, des sirènes d'alerte anti-aérienne ont été déclenchées cet après-midi à Ashkelon en Israël, près de Gaza. L'armée israélienne affirme avoir intercepté 2 projectiles tirés depuis le territoire palestinien. Toujours concernant l'actualité israélienne, la procureure générale annonce que Benjamin Netanyahou n'a pas le droit de recruter un nouveau chef pour le Shin Bet, le renseignement intérieur, après le limogeage de Ronen Bar, acté la nuit dernière par le gouvernement de Netanyahou. Une éviction contestée par l'opposition, plusieurs recours ont été déposés ce vendredi à la Cour suprême qui doit dorénavant les examiner. L'armée soudanaise a repris aujourd'hui le contrôle du palais présidentiel à Khartoum ce vendredi matin. Un coup dur pour les paramilitaires qui contrôlaient le bâtiment depuis quasiment 2 ans. Les forces de soutien rapide ont riposté avec un raid de drones sur les bâtiments. 3 journalistes de la télévision d'État ont été tués. Toujours sur le continent africain, au Burkina Faso, le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou a annoncé hier jeudi l'ouverture d'une enquête en rapport avec des messages de haine diffusés sur les réseaux sociaux, messages de haine et d'appels au meurtre contre la population Peul du Faso. Frédéric Gara.
Dans son communiqué, Bakouli Blaise Bazier, le procureur du Faso, constate que des messages appelant à l'extermination, je cite, « d'une communauté précise » sont diffusés sur plusieurs pages Facebook et sur des profils d'internautes. Des messages haineux qui rappellent le procureur sont passibles de lourdes sanctions selon le code pénal. Les messages en question ciblent la communauté Peul avec des slogans sans aucune équivoque du type « Opération Zéro Peul » dans les 45 provinces du Faso. Cette annonce d'une enquête et d'éventuelles poursuites contre les auteurs de ces messages intervient après un nouvel épisode d'expédition punitive contre la communauté Peul. Ainsi, à Solenzo, le 10 mars dernier, plusieurs bataillons d'intervention rapide et des volontaires pour la défense de la patrie se sont livrés à une rafle massive de villageois Peul. Sur les réseaux sociaux, filmés par les auteurs de cette razzia, on peut clairement voir des dizaines de villageois ligotés, molestés ou assassinés. On distingue également des VDP de la ville voisine de Kouka s'en prendre à ces populations désarmées de vieillards, de femmes et d'enfants. De quoi alimenter la réflexion des enquêteurs, diligentée depuis ce jeudi par le procureur Bazier.
La guerre force de nombreux habitants à prendre la fuite dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, plus de 100 000 Congolais ont dû rejoindre les pays voisins en l'espace de 3 mois face à l'avancée des hommes du M23 soutenus par le Rwanda. Une autre agence des Nations Unies alerte aujourd'hui sur le nombre de morts sur les routes migratoires. 8 938 en 2024 selon le décompte de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, un record et un chiffre probablement en dessous du bilan réel, précise l'agence. Malgré les dangers, les candidats à l'exil sont nombreux et en Espagne, la polémique enfle concernant le sort de 5 300 mineurs, pour la plupart africains, entassés aujourd'hui dans des centres d'accueil sous-dimensionnés dans l'archipel des Canaries. Mardi dernier, le gouvernement socialiste a voté une réforme de la loi sur l'immigration pour obliger les différentes régions espagnoles à héberger ces mineurs venant d'une région saturée. Mais le changement met la droite vent debout, François Musso.
Inadmissible, insupportable. Le chef de file de l'opposition de droite, Alberto Núñez Feijóo, n'a pas de mots assez durs pour dénoncer la nouvelle réforme qui oblige concrètement à héberger dans toute l'Espagne 4400 adolescents migrants qui sont en trop dans les îles des Canaries saturées. Ce litige dure depuis des mois, mais désormais la loi oblige. Et elle oblige en fonction de plusieurs critères. La population, le niveau de vie et aussi les efforts consentis par le passé par la région en question. Concrètement, 806 mineurs doivent être reçus dans la région de Madrid, 795 par l'Andalousie et 479 par la région valencienne. Dans les trois cas, ce sont des gouvernements régionaux dominés par la droite. Aux yeux du leader conservateur, c'est bien cela qui est inadmissible et insupportable. Núñez Feijóo estime que, de façon injuste, ce sont les régions gouvernées par son parti qui devront consentir le plus gros effort. Il a appelé les présidents des régions concernées à désobéir, si bien qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il va advenir de ces migrants adolescents. François Musso, Madrid, RFI.
Le bilan de l'accident de Novi Sad augmente plus de 4 mois après l'effondrement de l'auvent d'une gare en Serbie. Un adolescent est mort ce vendredi de ses blessures. On dénombre donc désormais 16 victimes dans cette affaire qui provoque depuis une vaste mobilisation des étudiants serbes, mobilisés donc contre la corruption des autorités de leur pays. En France, François Bayrou bouclera ce week-end ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement. Et même si son poste n'est pas menacé à court terme, la semaine a été rude pour son cabinet et sa majorité relative au Parlement. Pugilat sans fin avec l'Algérie, censure d'une partie de la loi d'orientation agricole, des revers aussi sur des pans entiers du texte sur le narcotrafic, la panthère raide pour le Premier ministre Aurélien Devernois.
Vous l'avez compris, nous sommes victimes d'une panne informatique.
Le coup de la panne au moment de voter un volet cybersécurité de la loi narcotrafic, comme un résumé de cette semaine agitée pour le gouvernement. Dans l'alliance gouvernementale, certains n'hésitent plus à critiquer la méthode Bayrou, avec des ministres se tirant dans les pattes et un patron aux convictions floues. Si Michel Barnier ou Gabriel Attal avaient subi la moitié des revers actuels, ils auraient été renversés, estime un député macroniste. Mais la période est différente, poursuit-il. François Bayrou bénéficie du contexte international et de la volonté de stabilité des Français face aux menaces extérieures. Reste que les députés du camp gouvernemental ménagent leurs efforts. Hier soir, lors de l'examen de la loi narcotrafic, beaucoup étaient aux abonnés absents. Quand on sait qu'on va se faire battre par les alliances entre l'extrême droite et la gauche, on ne se déplace même plus, reconnaît un autre parlementaire. Une impression de flottement renforcée par la quasi-absence de projets de loi venus du gouvernement, mais aussi par la lutte sans merci entre l'Assemblée et le Sénat qui poursuivent des agendas politiques parfois opposés et bloquent les textes adoptés. François Bayrou n'a pas de cap et ne maîtrise pas grand-chose, juge un socialiste, et ça commence à se voir.
Aurélien Devernois du service politique de RFI, il est maintenant 15h10 en temps universel. Tout de suite sur le Pont des Arts avec Nathalie Amard.